Shalom Arab.
Shalom.
Merci de participer à ce petit exercice de questions-réponses de shoot en hébreu. Merci aux élèves de l'année 2026 qui sont avec nous et à ceux qui nous écoutent. Alors comme ça, j'ai récolté quelques questions de plusieurs élèves et je vais vous les poser. Elles sont très variées. On commence avec.
Il y aura également des questions de l'audience.
De l'audience, absolument. S'ils veulent participer, ils peuvent le faire. Rabbi Nachman écrit Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. Alors déjà, hein, donc c'est une grande mitzvah d'être tout le temps
en joie.
Qu'est-ce qu'il entend par le mot mitzvah? Est-ce que c'est un commandement réel ou une bonne action? Et puis comment on réalise cette phrase? Comment on est tout le temps en joie alors que dans la vie, il y a des hauts et des bas?
Bon, j'ai découvert une teshuvah, une responsable d'un chassid de Breslav du nom de Rabbi Afraimel, peu connu de Jérusalem, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il pose la question de savoir d'où est-ce que notre maître a tiré que c'était une grande mitzvah d'être dans la joie tout le temps. Alors la réponse est tout à fait caractéristique de Breslav. Il dit, c'est très simple, c'est que quand on n'est pas dans la joie, on en arrive à la tristesse. Quand on arrive à la tristesse, on en arrive à la déprime. Quand on arrive à la déprime, on risque de se suicider. Or, la Torah nous dit que sur 613 mitzvot, il y en a 610 qui sont repoussées pour des raisons de pikuach nefesh, quand on la vit en danger. Et donc, ça veut dire que la mitzvah d'être dans la joie est équivalente à 610 mitzvot. De là, il a tiré le terme de gedola. Bon, est-ce que ça tient, disons, sur le plan du débat halakhique classique? Évidemment pas, mais c'est une belle idée. Maintenant, comment être dans la joie en permanence alors qu'il y a des malheurs dans la vie? Rappelez-vous une chose intéressante, on raconte une histoire comme ça chez les chassidim, qu'une fois un roi a demandé à son conseiller juif de lui donner un objet qui le rendrait joyeux quand il est dans la tristesse et triste quand il est dans la joie. Alors, il a donné une bague dans laquelle il y avait écrit à l'intérieur « Gamse Yahavor ». Ça aussi, ça passera.
Super. Donc, en fait, la joie, c'est ce qui permet de réaliser la Torah.
S'il n'y a pas de joie, on n'est pas entièrement un être humain. Okay. Et la Torah a été donnée à des êtres humains, elle n'a pas été donnée à des robots. Et donc, le fait d'être dans la joie fait partie intégrante de la compréhension de la Torah. Si on n'a pas de joie, on n'a pas d'horizon. Et alors, on risque toujours de se tromper. On ne sait pas si on pense des bonnes choses ou des mauvaises choses, si on a dit la vérité ou pas la vérité. Quand on est dans la joie, les horizons s'élargissent. Vraiment, les horizons s'élargissent. C'est alors qu'on comprend comment aborder les différentes péripéties de la vie.
Ok, super. Question numéro 2. La Torah nous demande d'améliorer notre personnalité. Pas seulement de faire des actes, mais aussi de changer notre cœur, c'est-à-dire notre monde de volonté. Comme il y a marqué dans le passou, Vata Israël, ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qui im le ira le ava ve la avod et Hashem Elokecha bechol et avecha. Donc de servir Dieu avec tout notre cœur.
C'est ce qu'on appelle la morale, tout simplement. Oui, alors.
On peut appeler ça le Tikkun Amidot?
Oui, bien sûr. C'est le Tikkun Amidot fait partie essentielle, partie intégrante de la finalité morale. Quand la Torah nous dit cette série, justement, de commandements, il s'agit de commandements qui préexistent à la Torah. Okay. C'est-à-dire, la morale n'a pas été inventée par la Torah. La Torah est donnée en surplus de la morale. Ce que rajoute le texte, c'est que c'est agréable au Créateur. D'accord. Et que c'est comme ça que nous le rencontrons.
Et alors, est-ce que pour arriver à... Comment vous définissez l'expression Tikkun Amidot?
Il s'agit de l'amélioration de ses qualités morales et donc de réparer ses défauts et d'agir selon le bien. Voilà. Je pense que c'est assez clair.
Et est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner pour améliorer ses défauts et agir selon le bien?
Eh bien, je suppose que vous connaissez certainement le livre Messilat Yesharim. Oui, c'est ça. D'accord. Messilat Yesharim est une encyclopédie de la moralité juive. Et il y a là-bas toute une série, justement, de définitions très intéressantes. Ce qui est intéressant dans ce livre, bon, c'est un livre qui a été écrit pour des gens qui sont fidèles à la Torah, pour des Talmidei Chachamim. Mais ce qui est intéressant, c'est que il nous donne une clé qui permet de nous mesurer. C'est-à-dire, je peux savoir à quel état de moralité je me trouve actuellement. Je dois simplement faire une observation de ma vie intérieure, la comparer à ce que les livres disent, disent, c'est là que je suis et que je sais où j'en suis.
Vous parlez du Cheshbon Nefesh?
Entre autres, oui, mais c'est le Cheshbon Nefesh, attention, ce n'est pas la déprime, comme on a l'habitude de penser. Il est bien de rentrer dans un Cheshbon Nefesh, donc de se dire, oh là, comme je suis mauvais. Non, pas du tout. Savoir à quel point je suis bon est également une partie du Cheshbon Nefesh. Vous savez que à Kippour, nous avons le commandement du vidouille, de reconnaître ses fautes. Mm-hmm. Mais il y a dans la Torah un autre vidouille, le vidouille Ma'asot, dans lequel on doit se dire, voilà, j'ai fait ça de bien, et ça de bien, et ça de bien également. Mm-hmm. Si je ne suis pas conscient de en quoi est-ce que je suis bon, alors la rencontre avec ce qu'il y a de mauvais en moi risque de me faire tomber. Or, c'est pas ça le but de la Torah.
Et dans quelle mesure, pour devenir bon, on peut s'aider de la psychologie et de tous ses dérivés, comme le coaching, le développement personnel, qui ne viennent pas, a priori, de la Torah?
Aucun problème.
On peut s'aider?
Absolument.
D'accord. Très bien. On change de sujet. Quand est-ce qu'on sait quand on est prêt à se marier?
Ben, c'est très simple. Quand on a la capacité de prendre la responsabilité d'une famille. C'est-à-dire, si vous savez, vous occupez d'un enfant qui pleure, vous avez cette idée que s'il est nécessaire de gagner sa vie, vous saurez comment le faire, ou vous saurez le faire. Mm-hmm. C'est le moment.
Ok, très bien. Et comment savoir si c'est la bonne personne?
Eh bien, c'est très simple. C'est comme si, la vie est une sorte de voyage. Si vous allez en voyage, par exemple, vous faites de l'alpinisme, vous voulez faire l'ascension de l'Himalaya, voilà, vous allez prendre avec vous une équipe. Alors vous allez voir qui c'est qui a des pioches, qui c'est qui s'y connaît en secours, etc., etc. Et on peut dire la vie en famille, c'est une sorte de voyage à deux personnes. Mmh. Et dans ce cas-là, il faut se demander, est-ce qu'il y a aptitude à viser à un but, disons, pas exactement le même, mais similaire. C'est-à-dire, on peut se demander quel est le but de la vie, de son point de vue à soi et du point de vue de l'autre personne.
Si on a le même but et qu'on pense qu'on peut faire une bonne équipe, ça suffit.
Exactement.
Et la place de l'amour?
L'amour, c'est tout à fait normal. L'amour, c'est ce qui vient après le romantisme. Okay. Le romantisme, c'est ce qui se passe lorsque un jeune homme et une jeune fille sortent ensemble. C'est vachement sympa, c'est très sympathique, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est quand on est capable de créer ensemble. Or, ça, c'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, dans la jeunesse, il y a une grande aptitude à kiffer ensemble, il n'y a pas d'aptitude à se marier. C'est pas du tout la même chose. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on a kiffé ensemble, c'est sympathique, mais justement c'est sans responsabilité. C'est quand s'ajoute la responsabilité que ça devient du véritable amour.
D'accord. On a beaucoup d'élèves qui sont soldats dans la salle et c'est une grande fierté. Et il y a une difficulté comme ça qui revient chez beaucoup de nos soldats, c'est l'écart qu'il y a entre l'idéal et la réalité. C'est-à-dire, on veut protéger le peuple d'Israël, qui renaît sur sa terre, etc. Mais lorsqu'on arrive à l'armée, concrètement, il y a beaucoup de soldats qui se moquent de moi parce que j'ai un accent français. Il y a beaucoup de soldats qui ne veulent pas être là et ça fait une ambiance comme ça pas très sympathique. Il y en a même qui essaient de m'arnaquer parce que vu que je comprends pas très bien, alors voilà, ils vont me faire faire plus de garde que les autres. Et puis même au niveau Torah, on peut être face à des gens qui ne connaissent pas la valeur de la Torah et donc ça va être une ambiance où on va entendre des vulgarités, le Shabbat ne sera pas comme on a l'habitude. Comment est-ce qu'on tient dans ces conditions?
Bienvenue dans le Olam Hazeh. Bienvenue dans le monde de la réalité. Quand on est à la yeshiva, c'est pour apprendre la vie théorique. Mais c'est comme quand on est dans la grossesse, dans le ventre de sa mère. Il n'y a pas encore de confrontation avec la réalité. Alors peut-être que ça serait le mieux de rester dans le ventre de maman. Mais alors qu'en fait, la grossesse est pour naître. La yeshiva, c'est pour rencontrer après la vie. Et la Torah nous donne des instructions dans toutes les situations de la vie. Il y a des dangers en dehors de la yeshiva, mais je vais vous révéler un secret, il y en a également à la yeshiva.
Très bien. Et il y a des petits conseils, des petites, des pensées à avoir pour tenir dans ces difficultés?
Ah, c'est très simple. Il faut avoir toujours dans sa poche des bonbons à distribuer aux copains. Ça, c'est au niveau de Jonadab Lachavero, de la relation avec son prochain. Et il faut toujours se porter volontaire jusqu'à ce que le commandant en est marre de, oui, bon, qui est prêt à faire sauf un tel, d'accord? C'est comme ça que ça marche.
Très bien, très pratique. Il y a une autre difficulté pour nos chayalim, c'est on a envie de tout donner, on est prêt à donner sa vie, mais parfois il y a une pensée comme ça qui peut un petit peu affaiblir cette motivation. C'est celle de se dire que les commandants qui sont tout en haut vont prendre des décisions en période de guerre qui ne sont pas forcément compatibles avec la Torah, qui vont par exemple risquer la vie de chayalim pour protéger des civils de l'ennemi. Et on se dit, mince, j'ai envie de tout donner, mais peut-être pas dans ces conditions-là.
Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, vous connaissez certainement le général Zini,
oui.
Qui maintenant est à la tête du Shabak, mais quand il était à l'armée, a dit « Je suis prêt à mourir à cause des erreurs de mes commandants ». Et ça, c'est très important parce qu'une armée ne peut pas fonctionner s'il y a une décision personnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai rencontré la semaine dernière une instructrice des Tatalufim, c'est-à-dire un niveau très haut dans l'armée, et on lui a justement posé cette question. Est-ce qu'à Tsahal, il y a une politique qui est de mettre en danger nos soldats pour épargner la vie des civils de l'ennemi? La réponse a été très nette. Non. Mais. Non, parce que, en principe, c'est pour ça qu'une armée existe, notre vie à nous est plus importante que celle de l'ennemi, quel qu'il soit. Mais, étant donné la pression internationale, si on ne tient pas compte des vies civiles, on risque de ne plus pouvoir continuer la guerre. Donc, pour des raisons de stratégie générale, on peut avoir ce genre de considération, mais pas pour des considérations morales qui diraient que la vie du civil d'en face est plus importante. Non.
Okay. Alors, si déjà on parle de moralité à l'armée, Tsahal est l'armée la plus morale du monde?
Tsahal est l'armée excessivement morale au monde. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant près d'un an avec le général Uzi Dayan, le neveu de Moshe Dayan. Nous avons rédigé ensemble un texte qui est une rectification de ce qu'on appelle le Roar Tsahal, c'est-à-dire les valeurs de l'éthique de Tsahal. Et nous travaillons actuellement dans la scène publique pour diffuser ce document qui fait pas mal de bruit, hein, pour vous dire.
Comment on explique, alors, si vraiment on est une armée excessivement morale, comment on explique qu'on soit si mauvais en Hasbara, c'est-à-dire que le monde entier, en général, nous prend pour les pires des génocidaires, etc.
Donc,
alors, ma question n'est pas sur le monde, mais sur l'antisémitisme qu'il y a là-bas, c'est leur problème. Ma question est pourquoi nous, on n'arrive pas à être meilleurs. Le génocide est c'est faux. La famine, c'est faux. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le montrer au monde?
J'ai rencontré aujourd'hui un psychologue qui m'a dit, quand on ne cesse de dire « ça va bien chez moi », c'est que ça va pas.
Okay.
C'est-à-dire, quand on dit « oui, nous sommes les meilleurs du monde, les accusations du monde sont fausses », c'est déjà une faiblesse. C'est la nécessité de se justifier. Alors, on peut dire effectivement, on peut aller loin et dire « la Hasbara ne sert à rien ». Non, la Hasbara est utile. D'ailleurs, une de mes élèves, qui était ambassadrice à Londres, Tzipi Khotobeli, va être nommée très prochainement comme responsable de l'Hasbara israélienne, ce qui s'appelle une résurrection, c'est-à-dire quelque chose qui était inexistant va commencer à exister. Mais il est important de comprendre que il y a une sorte d'inféodation de l'identité juive à la communauté internationale. C'est un réflexe de ghetto qui nous est resté depuis le temps de l'exil. Ça prend du temps, mais disons que la meilleure Hasbara, c'est d'être sûr de soi. En vérité, le fait que le monde nous accuse en permanence de mensonges, c'est tellement caricatural que ça, c'est indirectement la preuve de notre bien fondé.
Selon vous, est-ce que l'État d'Israël devrait appliquer la peine de mort aux terroristes?
Elle le fait déjà. C'est-à-dire, selon la loi israélienne, on peut parfaitement, selon certaines conditions, selon, disons une certaine composition du tribunal, on peut condamner à mort même sans la loi en question. Alors, en fait, le fait qu'aujourd'hui on essaie de faire avancer cette législation, etc., bon, ça, on peut dire ça a une conséquence au niveau de la Hasbara, justement, ça sera totalement inapplicable, donc c'est pas la peine d'en parler.
D'accord. Mais selon la Torah, est-ce qu'il faudrait le faire ou pas?
Selon la Torah, alors personne ne demande qu'est-ce que la Torah en pense de ce genre de choses. Selon la Torah, il y a les prérogatives qui s'appellent le din malchut. Le din malchut, c'est-à-dire que l'État peut effectivement condamner à mort qui, bon, lui semble dans la mesure où ça sert une certaine politique éthique. Maintenant, est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Et je pense qu'il est toujours important, quand on parle de ce que dit la Torah, de connaître également la réalité de la Torah.
C'est-à-dire?
Ben, c'est très simple. Par exemple, d'après la Torah, si quelqu'un transgresse le Shabbat, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Le lapider, n'est-ce pas? Depuis combien de lapidations vous avez vu ces derniers temps?
C'est
zéro. D'accord? Est-ce que c'est parce que les rabbins n'ont pas la force de le faire? Non, parce que les rabbins ne veulent pas le faire.
Okay. On est au début de l'intelligence artificielle. Oui. Et on a l'impression qu'on va tous être remplacés par des robots. Je pars du principe que Dieu permet les avancées technologiques en fonction de la moralité de l'humanité. Est-ce qu'on est prêt à faire face à ces avancées technologiques ou pas?
Absolument pas. C'est-à-dire que nous sommes à la veille d'une décadence morale très forte, étant donné que à partir du moment où l'homme ne sert plus à rien, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des bêtises. Mm-hmm. Mais c'est toujours comme ça que ça marche. Les kabbalistes nous disent « clipa que de mettre la prise », c'est-à-dire que l'écorce vient avant le fruit. Et donc, nous sommes à la veille d'une très grande avancée. Une grande avancée dans l'identité humaine qui fait que, finalement, ce qui va se passer, ce sera après tous les dégâts de l'intelligence artificielle, il y aura tous les bienfaits de cette intelligence artificielle, nous serons dans un monde où, comme dit Maïmonide, le monde entier ne s'occupera que d'une seule chose, c'est de connaître Dieu.
Très bien. Alors, comment on fait pour tenir dans toute cette période de dégâts qui nous attend?
Eh bien, comme d'habitude, face à tous les dégâts, simplement, il faut garder une conscience claire. J'ai un ami, d'ailleurs, qui m'a dit « Oui, mais c'est très dangereux, l'intelligence artificielle. » Je lui ai dit « Oui, mais viendra un jour où quelqu'un va comprendre à quoi ça sert en vérité. » Il dit « Mais comment convaincre les gens ?» Il suffit d'une seule personne. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, une seule personne a compris qu'il fallait fonder le monothéisme, et aujourd'hui ça marche. Alors, il suffit d'une personne consciente, et Baruch HaShem, nous avons plus qu'une personne consciente, nous pouvons renverser la vapeur.
Ok, super. Vous n'avez pas de téléphone, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. J'ai pas de portable.
Pas de téléphone portable.
Oui, portable. Enfin, ma femme, mes enfants, mes amis, mon directeur général, tous en ont. J'ai aussi quand même l'internet.
D'accord. Vous pensez que c'est une bonne idée de ne pas avoir de téléphone portable?
Disons que c'est un luxe que je peux me permettre.
Ok.
D'accord. Dans la plupart des cas, c'est pas réalisable. Mais simplement, je suis un enfant gâté qui se permet de ne pas avoir de portable.
Très bien. Il y a un côté un petit peu addictif dans le téléphone portable.
Sans aucun doute. Il y a également quelque chose d'addictif dans le gruyère. Mm-hmm. Si vous aimez le gruyère, vous allez en manger des quantités. Vous êtes toujours en danger d'addictif.
La différence, c'est que le gruyère, à un moment, il se
fait du mal. Oui, c'est très dangereux pour le cœur.
C'est vrai. Oui. Mais à un moment, il s'est fini. Alors que le téléphone portable nous propose un contenu qui est infini. Qu'est-ce qu'on pourrait donner?
C'est extraordinaire. Ça veut dire que ça m'ouvre toutes les possibilités. Ça me met à l'épreuve de la liberté.
Mm-hmm. Et pour l'expérimenter, cette liberté, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à nos élèves qui peut-être parfois sont en challenge avec cette addiction pour qu'ils jettent leur téléphone par la fenêtre?
C'est simplement avoir l'amour total et absolu de la liberté.
Mmh. Très bien. Question personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'aller à la Yeshiva?
La pensée du Rav Kook.
Comment vous l'avez découvert?
Un peu à part mon frère qui avait été au Merkaz Arab auparavant. Mais enfin, on peut dire que quasiment accidentellement, j'ai rencontré l'idée du klal qui m'a fasciné. Et c'est pour ça que j'étais à la Yeshiva, pour comprendre ce que disait cette pensée.
Et le Rav Ashkenazi, qu'est-ce que vous avez
dit? Ashkenazi a été, si vous voulez, le renforcement de cette tendance. Le Rav Ashkenazi toute sa famille était en amitié profonde avec ma famille, donc en fait ça faisait partie un peu du paysage dans lequel j'ai pu grandir. Mm-hmm. Donc ça a été pour moi également une découverte quand je suis rentré dans ses cours, et on peut dire que d'une certaine manière j'ai été formé à sa manière d'aborder les choses.
Alors ça, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à l'Yeshiva, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de rester à l'Yeshiva?
Ça a été un peu plus compliqué. Ce qui m'a donné envie de rester à la Yeshiva, c'était d'abord une sorte d'immobilisme, d'accord, soyons francs, mais également le sentiment qu'il fallait avoir, comment dire, un poste d'influence. c'est-à-dire toujours j'ai senti une responsabilité par rapport à la société, aussi bien israélienne qu'universelle. Et je me suis dit, il y a un lieu où on acquiert les connaissances qui permettent justement de prendre ses responsabilités. Ça, je suis resté à la Yeshiva.
Super. Alors, c'est ma dernière question. Donc, ça va être à vous, les gars, de prendre la relève. Pensez si vous avez des questions, c'est le moment.
Ils sont très intimidés.
On pourra tout couper au montage. D'accord? Tout ce que vous direz sera...
Mais on promet pas. Quelle est la question?
Ma dernière question, c'est pour la dernière guerre qu'on vient de vivre, la guerre en Iran, en fait, qui a été la suite de la guerre avec le Liban, la guerre avec Gaza, etc. Dans tous les cas, on était témoins de très grands miracles. Ça, c'est incroyable ce qu'on a vécu,
oui,
réellement. Et d'un autre côté, malgré tout, je veux pas faire l'enfant pourri gâté, mais disons que dans aucun cas, on est allé complètement jusqu'au bout. Et on voit qu'en fait, on s'est arrêté un petit peu en chemin. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout et qu'est-ce qu'on
devrait... Je vous donne une surprise. Si on fait la conquête de toute la bande de Gaza, ça va nous amener à fonder un État palestinien. Vous préférez ça?
Comment...
Ben oui, tout simplement, parce qu'à partir du moment où vous avez Israël a toute la responsabilité sur le terrain, alors la communauté internationale va dire, bon, alors qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui, les guerres s'achèvent en fonction du renversement de l'équilibre des forces. C'est-à-dire que déjà maintenant, l'Iran est en position de faiblesse par rapport à l'ensemble de la communauté même islamique. C'est-à-dire que le chiisme est en baisse et c'est le sunnisme qui est en train de monter. Nous avons fait la guerre de la Sunna contre la Shia. Seulement, c'est alors que va commencer un nouveau travail qui est d'orienter le sunnisme vers les accords d'Abraham plutôt que vers les frères musulmans. C'est ça le travail. Et donc, pour ce qui est du Liban, vous savez, Israël a une politique très importante, très intelligente, de ne pas ouvrir deux fronts à la fois. Alors, on en finit avec l'Iran, on va continuer avec le Liban. Ne vous en faites pas.
Parce que c'est, on est d'accord, que c'est quand même moral d'en finir complètement avec le Hezbollah.
Absolument. En finir complètement. Simplement, étant donné qu'il y a une idéologie du Hezbollah, alors, on peut toujours s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres qui prennent un Kalachnikov et qui commencent à tirer. Donc, ça, quand on parle de victoire, la victoire, c'est en fait l'annexion. Et ça demande un certain travail. La situation actuelle sur le plan international rend cela envisageable.
Très bien. Vous avez des questions? Comment ancrer en nous cet amour absolu de la liberté, c'est ça?
Et comment appliquer la stratégie du Rambam qui est de faire plus dans une direction pour transformer une qualité? D'accord? C'était ça la question, je crois. Oui. Bon, alors tout d'abord, pour ce qui est de l'amour de la liberté, il est ancré dans l'être. C'est-à-dire, nous sommes libres par nature, par essence. C'est pas quelque chose que l'on devient, on ne devient pas libre, on est libre. Même quand on a quand on est persuadé que nous sommes asservis, que nous sommes esclaves de nos instincts, c'est une décision libre de le penser. Et donc, il suffit pour cela d'y croire. À partir du moment où on y croit, on ne peut plus y renoncer. Maintenant, pour ce qui est de Maïmonide et des stratégies pratiques, de la tactique du Tikkun Habidot, il faut toujours se rappeler que quand on dit Acharei Ha-Ma'asim Nimshachim Ha-Levavot, c'est après les actes que les cœurs sont attirés, ça veut dire que tout d'abord, il faut qu'il y ait un cœur. Il faut qu'il y ait une volonté, alors la stratégie est pratique. Mais sinon, non.
Est-ce que la guerre de l'Iran peut-elle être appelée la guerre de Gog ou Magog, ou pensez-vous peut-être que l'Iran est Amalek?
Oui.
Non, là, il faut que tu lui demandes, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Je vais dire ça. Tout simplement, la définition de la guerre de Gog ou Magog apparaît de manière très claire dans les prophètes, y compris les protagonistes. Il suffit simplement de lire les textes.
J'ai une question.
Oui.
Vous avez dit qu'à la Yeshiva, on apprend à voir comment la vie théoriquement devrait, à quoi elle devrait ressembler pour après, plus tard.
Oui, c'est comme vous faites de la théorie pour se faire une conduire.
Qu'est-ce que vous conseillerez d'étudier? Dans la Gemara, je ne vois pas en quoi ça va m'expliquer comment on vit plus tard, par exemple.
Votre question, c'est qu'est-ce que je conseille d'étudier pour que la Yeshiva soit la théorie du monde pratique, c'est ça?
Exactement.
Il faut étudier toute la Torah.
Mais comment on fait
C'est attention, attention. Ça veut dire quoi utiliser la Torah? La Torah, hein, on peut la comprendre comme étant les règles de comment s'occuper, comment réchauffer un plat Shabbat. Alors si c'est ça toute la Torah, alors la Torah devient un mode de cuisine, des instructions de cuisine. Si la Torah s'occupe de comment qui c'est qui doit rembourser lors d'un accident de voiture, etc., donc ça devient une compagnie d'assurance. Mais si on étudie la Torah dans toute sa, dans toute son envergure, alors c'est là qu'on comprend comment est-ce que la Torah est un plan, un projet qui dépasse non seulement notre identité personnelle, mais également implique la vie nationale et l'histoire humaine tout entière. Donc il faut étudier tout. Oui.
Dans une question, c'est on est dans la période du Omer, qui est une période de deuil, qui est, on sait qu'on
Ta question concerne la période du Homer, qui est effectivement, d'après Narmanide, une période de joie. Entre Pessah et Shavuot, Narmanide dit en toutes lettres, c'est comme un long Chol HaMoed. Effectivement, c'est une période de convalescence, d'une certaine manière, c'est quand on sort de la maladie de l'exil d'Égypte et qu'on va vers la réception de la Torah. Alors, quand on est en convalescence, c'est là également qu'on est en danger. C'est pour ça que cette période de joie est devenue une période de deuil, à cause justement de la perte de ce nombre très important d'abord de grands talmid et chachamim, et sans parler du fait qu'ils ont également participé à la guerre de Bar Kokhba, qui était une tentative de rétablir l'indépendance d'Israël. Et le fait qu'ils n'ont pas réussi, c'est ce qu'on dit, l'ona agu kavod zebazé, ils n'ont pas respecté les uns les autres, c'est pas qu'ils avaient un problème dans tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Ça veut dire qui n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur la stratégie à employer. Par exemple, c'est comme à l'armée, quand chacun dit « oui, bon, il y a l'ordre, mais moi je pense autrement ». Et donc, nous avons de très bonnes raisons de faire un deuil à cause de la chute nationale que ça implique, pas à propos de tel et tel individu chez les élèves de Rabbi Akiva. Oui ? Oui ? Deuxième question.
Mais du coup, comment ça coïncide avec les Boulmagmar qui diraient, parce que vous avez dit qu'ils sont morts pendant la guerre de Bar Kokhba.
Oui, bien sûr.
Les Boulmagmar, c'est Rav Nachman qui dit qu'ils sont morts comment il dit Aska.
Oui.
On a vu après que c'était finalement une maladie respiratoire qui est sur eux. Comment on peut expliquer que c'est à la guerre finalement
Comment comprendre qu'ils sont morts à la guerre alors que la Gemara dit qu'ils sont morts de l'hydropisie, ce qu'on appelle Askara en hébreu? Alors, c'est la question? Tout simplement, parce que la Gemara ne donne pas forcément des données historiques. Mais celui qui nous donne des données historiques, c'est Rav Shrira Gaon, qui était un des derniers grands géonymes héritiers directs de la Gemara, et qui nous dit en toutes lettres que c'était Beshmada. Shmada, c'est-à-dire c'est la guerre de Bar Kokhba. Maintenant, le fait que il y a écrit dans la Torah, dans la Gemara Askara, faites bien attention, une différence entre la Braïta et Rav Nachman. La Braïta nous dit qu'ils sont morts d'une mauvaise mort, mitara, sans dire le détail. Par la suite, Rav Nachman demande qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise mort? On dit c'est Askara. Ça veut dire que quand, dans notre environnement, dans notre réalité, nous parlons d'une mauvaise mort, ça peut être cette maladie en question. Ça ne veut pas dire que c'était le cas des élèves de Rabbi Akiva. Oui, alors, cher ami, votre question.
C'est quoi votre vision par rapport à la Torah Tachassidut? Est-ce que c'est vraiment, pour ce dor, c'est kedai de l'apprendre? Et est-ce que la Torah du Rav Kook, ça peut remplacer ce besoin aujourd'hui, actuellement?
Le chassidisme, pour qu'il soit bien compris, il doit être basé sur le judaïsme. C'est-à-dire, le judaïsme est l'enseignement de ce que le Créateur demande à la communauté d'Israël en tant que nation. Une fois que cela est bien intégré, il y a également ce qu'on appelle la vie intérieure. La vie intérieure de l'individu, et ça c'est la spécialité du chassidisme. Si on ne prend que le chassidisme, alors on risque de tomber dans une mystique éloignée des sources. Maintenant, est-ce que la pensée du Rav Kook relève entre autres du chassidisme? Sans aucun doute. On n'est pas forcément adepte du chassidisme, mais on est forcément adepte de la pensée du Rav Kook, puisque c'est lui qui a raison.
Ça, je suis persuadé, mais sinon, il y a quand même une kadayout d'apprendre la Torah de chassidout, c'est ce que vous conseillez?
Bien sûr, c'est très important, le chassidisme. Le chassidisme permet justement une approche de la vie intérieure qui est très importante. Je suis moi-même, par certaines branches de ma famille, de famille chassidique également. Et donc, je sais reconnaître la valeur de ces enseignements. Ah, ça, c'est de Skolny. C'était un élève de Rav Tzvi Hirsch Zdichov, qui lui-même était élève du comment il s'appelait, le Rav Horowitz, c'était, oui, le José Milou.
Moi, j'ai encore une autre question.
Oui.
Le Rav nous dit que Mashiach, il n'est pas là pour faire des miracles ou quoi que ce soit.
Oui.
Que ça, c'était ce que les idiots pensaient. Donc, concrètement, qu'est-ce que, quel va être son rôle, en fait, et qu'est-ce qu'il va faire, théoriquement, s'il ne fera pas de miracles ou quoi que ce soit? Comment le monde va changer après Mashiach et qu'est-ce qu'il va.
Mashiach est un roi. Un roi est un personnage qui concentre en lui le pouvoir politique. Il se sert du pouvoir politique pour accomplir sa mission en tant que roi d'Israël, qui est de rassembler les exilés, de faire les guerres d'Israël, de construire le Beth Amikdash, d'amener la paix universelle, de rétablir les conditions nécessaires pour la prophétie. Si il est doué pour faire des miracles, pourquoi pas? Mais c'est pas ça qu'on demande à un roi. Un roi, on lui demande de diriger l'État. Et c'est à travers l'État, dans sa perfection, dans sa plénitude, que le monde change.
Ok. Comment est-ce qu'on peut expliquer une phrase que j'ai souvent entendue, que lorsque deux raves discutent, aucun des deux a tort?
Comment comprendre cette phrase? Je ne la comprends pas.
On m'a toujours menti.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne comprends pas cette phrase.
Je crois que la phrase que je pense, c'est élouvez-vous du vrai.
Non, mais attention, il dit que c'est toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Souvent, entre deux chachamim, il y a différents aspects d'une même approche, enfin, d'une même réalité. Et donc, c'est normal que l'un dise une chose et l'autre dise autrement. Mais est-ce que c'est toujours le cas? La réponse est non. Je vais vous donner un exemple intéressant à ce propos. Le rabbi de Satmar pense que le sionisme est une hérésie. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il a raison. Il a raison pour une raison très simple. C'est quel est le fondement dans l'argumentation du rabbi de Satmar? C'est qu'il dit que toute souveraineté est une remise en question de la souveraineté du souverain du monde. C'est-à-dire, si on parle de Ribono, c'est qu'on remet en question Ribono Shelola. Donc, de ce point de vue-là, il a raison. La prise de position qui donne la souveraineté au pouvoir politique est une révolte, est une hérésie contre le créateur du monde. Pourquoi est-ce qu'il a tort? Il a tort parce que c'est une mitzvah de faire un État. Donc, il a raison dans le principe, il a tort dans l'application, mais il reste quand même un avertissement que les hommes politiques en Israël n'oublient pas qu'ils sont délégués par le Créateur. Donc on voit ici que les deux aspects ont raison. Oui. Non, après on va publier que le Rav Cherki dit qu'il est pour le rabbi de cette marque.
C'est une question qui n'a pas tellement de rapport avec toutes les questions un peu originales, mais qu'est-ce que vous pensez des longues péotes? Est-ce que c'est
des longues péotes
pour les chassidim ou ce serait bien pour chaque juif pour pouvoir se différencier des autres?
La PA a une longueur standard dans la halakha. D'accord? Si on veut en rajouter, c'est une question de mode.
Mais on ne peut pas penser que plus elle est...
On peut visible. Le penser, mais est-ce que moi je le pense?
Merci.
Je rappelle que d'après le Hari, qui est quand même un grand kabbaliste, la PA ne doit pas dépasser le coin de la mâchoire. Là.
Ne doit pas dépasser?
Ne doit pas dépasser. C'est ce que font les kabbalistes.
Rab, on a l'impression en Israël qu'il y a plusieurs fractures dans la société,
oui,
entre les laïcs les Haredim et les sionistes religieux de manière très vulgaire, qui n'ont pas en fait la même vision de l'État d'Israël. C'est-à-dire certains veulent le Beth Amikdash, d'autres veulent un grand ghetto et les derniers veulent juste être comme tous les autres peuples. Comment est-ce qu'on arrive malgré tout à vivre ensemble et qu'est-ce qui va se passer au final? Est-ce que tout le monde va devenir Dati Léoumi?
Tout d'abord, quand on entend dire qu'il y a des fractures terribles dans la société, il faut arrêter de lire les journaux. C'est totalement faux dans la réalité. Sur le terrain, il y a une fraternité, une solidarité entre les différents secteurs de la société, même s'ils ont des idéologies, des prises de position tout à fait différentes. Ça, c'est un point très important. Toujours, il y a des menaces, on est au bord de la guerre civile, les forces économiques vont quitter le pays, etc. N'importe quoi, regardez la réalité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que tout le monde va devenir Dati Léoumi? Tout le monde va finalement se rejoindre. Et chaque secteur de la société existe parce qu'il y a quelque chose à dire. Et quand on pourra entendre ce que chacun a à dire et donc en profiter, c'est alors que va naître une nouvelle identité.
Et on se ressemblera tous, on aura tous la même idéologie du coup?
Avoir la même idéologie ne veut pas dire qu'on se ressemblera tous. C'est-à-dire, nous avons tous la Torah, et pourtant, nous sommes différents les uns des autres, par exemple. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, hein.